qui es-tu ? L'idée de ce cycle, c'était de, d'interroger des personnes, enfin des personnes qui ont beaucoup réfléchi à cette question, savoir qui est Jésus, c'est une question énorme. Et l'idée à l'origine était de rencontrer différentes sensibilités. Donc aujourd'hui, on va écouter Christophe Théobald, prêtre jésuite, théologien, spécialiste du Concile Vatican II et de la théologie fondamentale. On avait sollicité un pasteur et professeur d'exégèse protestant pour parler plus peut-être des Écritures, Daniel Margera, mais il a dû finalement annuler parce qu'il avait un empêchement. Et donc cette conférence a été annulée et il y aura une prochaine conférence, donc le mardi 26 mars, que je vous recommande déjà de venir, avec un professeur d'histoire de l'université de Tel Aviv, qui s'appelle Dan Jaffe, et qui est spécialiste de l'histoire, enfin du milieu juif au 1er siècle après Jésus-Christ, donc en fait du milieu dans lequel Jésus a grandi, a été socialisé, et dans lequel il a eu sa vie publique. Et donc Dan Jaffe nous permettra de répondre, de questionner un peu la figure de Jésus d'une façon un petit peu excentrée, parce que lui évidemment n'est pas chrétien, mais il s'est intéressé à cette figure du rabbi Yeshua à l'intérieur de, on va dire, la constellation des controverses rabbiniques de l'époque. Donc il saura aussi un peu nous dire quelles sont les recherches récentes sur cette question de la différence entre les juifs et les chrétiens au 1er siècle, qui était en fait plus faible que ce qu'on peut imaginer quand on lit les Écritures. Donc merci beaucoup à Christophe Théobald d'être parmi nous aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, le titre de la conférence c'était « Rencontrer Jésus dans l'Église, virgule, et au-delà, point d'interrogation ». Donc je vous demanderai d'être bien silencieux, parce que c'est pas amplifié, mais on a l'habitude au Dorothy de faire des conférences conviviales dans lesquelles c'est la voix de l'invité qui porte. Et donc peut-être vous laissez Christophe 45-50 minutes, quelque chose comme ça, c'est pas très strict, pour après avoir des échanges avec la salle. Merci à tous d'être venus.
Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci Pierre-Louis, merci au Dorothy pour l'accueil. Et donc, je vais vous parler de Jésus. Alors, c'est déjà, comment dire, dans l'Église, c'est assez rare qu'on utilise simplement le terme Jésus. Souvent, on met un trait d'union, on parle de Jésus-Christ. Voilà. Et donc, toujours avec le risque d'oublier que c'est un personnage dont on peut parler, je dirais, d'un point de vue historique, ce que je vais faire aussi un tout petit peu, même je ne suis pas, je dirais, d'abord historien, mais théologien, mais aujourd'hui un théologien qui veut faire un travail, qui veut réfléchir sur Jésus, il doit aussi évidemment faire un peu, je dirais, de l'histoire. Alors vous êtes sans doute spirituellement situés différents, de manière différente. Je vais aller d'une manière très progressive. Alors le titre « Rencontrer Jésus » qu'on m'a donné, c'est un titre aussi assez inhabituel, hein, parce que, évidemment, la rencontre, ça suppose qu'on connaît déjà un peu quelqu'un. Peut-être on le rencontre à l'improviste, dans la rue, on entend peut-être parler de lui, on lit quelque chose sur lui. Mais une vraie rencontre, c'est toujours un début pour connaître le personnage un peu plus. Et donc, vous voyez, il y a à la fois une question historique, et que veut dire connaître un peu plus, et que veut dire réellement connaître la personne. Et donc ça, c'est le versant, si vous voulez, spirituel, je dirais, de la question que je vais aborder ce soir avec vous. Alors, je vais procéder en trois temps. Premier temps, rencontrer Jésus. Je vais d'abord parler de cette rencontre, mais je vais essayer d'en parler d'abord de manière un peu historique. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de lui, de ce personnage finalement assez bien documenté dans l'histoire? Et après, ça sera la deuxième partie, il y a un carrefour. Une bifurcation, et où, si vous voulez, je dirais, vont paraître différentes manières de reconnaître et de rencontrer ce personnage. Et c'est seulement dans ma dernière partie que je vais parler de l'Église. Rencontrer Jésus dans l'Église. Et on avait pas mal discuté de la thématique parce que, d'abord, la première formulation que tu m'avais proposée, c'est rencontrer Jésus dans l'Église. Ah, je disais, j'espère qu'on peut le rencontrer aussi ailleurs. Et donc, du coup, vous voyez, il y a ce au-delà qui est sorti finalement dans le titre. Donc, je vais un peu préciser ça dans la deuxième partie. Bifurcation, ça veut dire ça, c'est-à-dire il y a un choix à faire et finalement parler, rencontrer de Jésus, rencontrer dans l'Église, comment. Voilà un peu, je dirais, ce que nous allons faire ce soir. Alors, rencontrer Jésus, le connaître, premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire de lui historiquement? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, les historiens, il y en a beaucoup, il y a notamment un certain John P. Meyer qui a fait peut-être la recherche la plus étendue aux États-Unis. Il vient de mourir l'an dernier. Je pense qu'on doit avoir 6 volumes de sa recherche. Il manque malheureusement le 7e, le dernier. Mais je dis, ce qui est très intéressant dans son affaire, il précise la question de la date de la mort de Jésus. La date la plus hautement probable, si je puis dire, il y en a deux, soit le 7 avril 30, donc un vendredi, soit le 3 avril 30, 3. Vous voyez, ça c'est, si vous voulez, je dirais, un premier élément pour un historien, la fin de la vie de cet homme. Voilà. La crucifixion. J'y reviendrai tout à l'heure au procès de Jésus. Qu'est-ce qui a pu se passer? Voilà. Et l'autre date, évidemment, le début, sans doute Jésus est-il né à Nazareth. J'espère que je ne vous choque pas. À Nazareth, le Nazaréen, comme on dit aussi, c'est le nom qu'on lui donne. Jésus, vous voyez, ça rappelle Josué, vous voyez, qui a conduit le peuple de l'Exode vers la terre promise. Josué, Dieu nous sauve. Et donc, un autre élément important qu'on a de son histoire, il est sans doute parti à un moment donné au bord du Jourdain, où il y avait la secte ou le groupe du Baptiste, près de Qumran, pas très loin, et où il s'est inséré dans ce groupe. Et donc, on l'appelle aujourd'hui, les historiens disent, le Baptiste, Jean, était le mentor de Jésus. Et donc, une première question qui est extrêmement intéressante historiquement, pourquoi s'est-il séparé du Baptiste? Pourquoi s'est-il séparé? Et vous voyez, c'est une séparation extrêmement paisible. Il n'y a eu aucune concurrence entre les deux. Et Jésus, dans la suite, je dirais, des textes, on peut observer ça, parle avec beaucoup d'admiration, c'est le plus grand des prophètes, de lui. Mais il y a une différence qui apparaît ici et qui sera historiquement, aussi spirituellement et théologiquement, assez décisive. Quand vous regardez les textes, le Baptiste a eu une prédication, je dirais, de la colère de Dieu. On dit aussi une prédication apocalyptique. Dieu vous donne encore une dernière chance. Et si vous ne vous convertissez pas, c'est le malheur qui va tomber sur vous. Voilà. Et donc c'est le baptême de repentance, etc. Et sans doute Jésus a vécu aussi ce baptême. Mais voyez tout de suite la différence tout à fait décisive qui émerge ici entre le Baptiste, parce que l'évangile de Jésus, c'est-à-dire il quitte le Jourdain et il va en Galilée, au bord du lac de Galilée, Capharnaüm, toute cette région-là. Et au fond, il refait l'itinéraire de Josué, de ce prophète, qui entre dans la terre promise. Et ça, c'est le message principal de Jésus. Dieu s'est approché. Et ça, c'est l'évangile, une nouvelle de bonté absolue, de bonté radicale, une nouvelle, je dirais, de tendresse et de miséricorde sans condition. Et c'est avec ça qu'il est entré dans la Galilée de son époque et a rassemblé les gens autour de lui. Donc, vous voyez, ça c'est un premier élément bien à repérer. À la fois, j'ai une admiration pour son mentor et une prise de distance sur le fond. Sur le fond. Parce que c'est la question de Dieu qui est ici tout à fait en jeu. Donc vous avez, si vous voulez, je dirais un peu les deux extrêmes, et vient très vite de sa vie, donc chez le Baptiste, la crucifixion, et vient très rapidement la question, évidemment, mais pourquoi a-t-il été mis à mort? Voilà. Et je reviendrai un peu tout à l'heure, évidemment, je dirais, à cette question tout à fait centrale. Donc, rencontrer Jésus, pourrait-on dire, au point où nous sommes, c'est mon premier petit point, c'est d'abord, comment dire, le connaître dans sa différence par rapport au Baptiste, historiquement. Alors, que peut-on dire, deuxième point, maintenant, de sa présence en Galilée? Alors, les historiens vont vous dire beaucoup de choses, peut-être Yann Daffé va y revenir, parce qu'on a beaucoup de recherches sur le monde économique de l'époque, sur la question des impôts en Galilée, le double impôt pour le temple et pour les Romains, c'est un pays occupé. Donc, il y a la question religieuse et politique de l'époque, il y a beaucoup de questions qu'on peut aborder ici. Alors, moi, ce que je vais essayer de vous montrer dans ce deuxième point, c'est-à-dire comment Jésus a-t-il vécu son ministère, son service. Vous voyez, ministère, c'est une traduction du terme service. Comment s'est-il compris lui-même? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et comment il a vécu son ministère? Et là, on peut dire d'abord plusieurs choses. Vous voyez, il y a un terme clé qui émerge ici, qui va nous accompagner. C'est le terme autorité. Si vous connaissez un tout petit peu les récits évangéliques, vous voyez, ça apparaît très très vite ce terme. Il n'a pas parlé comme les scribes et les pharisiens, mais il a parlé en homme d'autorité. Et c'est vrai, je dirais, les gens ont reconnu très très rapidement, parce qu'ils avaient un sens, comme nous aussi, je dirais, par rapport à la crédibilité de quelqu'un. Et donc, et plus tard, on a appelé ça autorité. Un homme qui parle en autorité. Alors, qu'est-ce qui caractérise, au fond, cette autorité de Jésus? Je dirais d'abord, il ne sait pas, comment dire, centré sur lui-même, vient ici, je dirais, ce qu'il appelle l'évangile du règne de Dieu. L'évangile du règne de Dieu. C'est-à-dire la notion de l'évangile. On pourrait dire, pour traduire un peu, oi angelion, oi veut dire bon, et angelion, on connaît peut-être angèle, c'est-à-dire l'ange, c'est-à-dire c'est le messager d'une bonne nouvelle. Ça vient d'Isaïe, du prophète Isaïe. Et il renvoie toujours à cette nouvelle d'une radicale bonté, d'une bonté absolue. Et donc, vous voyez, dans l'ambiguïté, comment comprendre la relation à Dieu, il y a là une décision qui se prend et qui est tout à fait décisive. C'est-à-dire, Dieu est d'abord un Dieu de bonté radicale, inconditionnelle, inconditionnelle. Et donc, il y a une sorte de retour, d'ailleurs, au premier récit de la Bible, la Genèse, vous rappelez, il y a ce rythme, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et à un moment donné, ça se termine, c'est très bon, voilà. Et donc, l'Evangelion, l'Évangile, c'est au fond cette nouvelle d'une bonté radicale, et il faut bien dire que c'est une nouvelle exorbitante dans un monde où le mal existe, évidemment. Sous les différentes formes, n'est-ce pas? La mal a dit, le malheur, c'est-à-dire ce qui tombe sur nous à tel ou tel moment, d'une manière subite, est tout à fait inattendu. Et évidemment, la malveillance vis-à-vis d'autrui, le mal qu'on peut se faire les uns aux autres. Et voyez, vous sentez tout de suite que, je dirais, dans cette annonce ici, il y a quelque chose, j'utilise le terme exorbitant, excessif, qui émerge dans son existence. Et du coup, on peut aussi comprendre tout de suite que cette nouvelle, personne ne peut l'annoncer en son propre nom. Et même Jésus, les textes le disent très clairement, il n'a jamais annoncé cet évangile en son propre nom, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, etc. C'est-à-dire, il se réfère à Dieu. L'évangile de Dieu, pourrait-on dire, ça c'est le Nouveau Testament qui relie les deux, ou Dieu comme évangile. C'est extrêmement important de dire aujourd'hui où le mot Dieu est tellement instrumentalisé qu'on revient, si vous voulez, à cet axe fondamental, ce lien intime entre bonté inconditionnelle et ce mot Dieu. Alors on peut dire que le ministère de Jésus consiste en Galilée, consiste précisément à rendre cela crédible par sa présence. Auprès de, je dirais, de quiconque. Et alors, pourquoi peut-on se demander ici, ça a été reçu? Pourquoi ça a été reçu? Après, il y a évidemment, le conflit qui émerge très très vite, j'y reviendrai. Pourquoi ça a été reçu? Je dirais, il y a au fond trois vecteurs qui caractérisent le personnage ici, et qui peuvent vraiment, je pense, nous intriguer. Très simplement, premièrement, le rapport, à lui-même. Je résume très rapidement pour simplifier. Jésus a toujours dit ce qu'il a pensé et fait ce qu'il a dit. Vous voyez, cette sorte de concordance. Et on est très sensible, nous, aujourd'hui, aussi à ça, parce qu'on le perçoit tout de suite, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a cette concordance ou est-ce qu'il y a quelque part un mensonge qui s'infiltre dans le personnage? Ça, c'est le premier élément. Je dirais, le deuxième élément, on pourrait parler en termes d'empathie. En termes d'empathie. C'est-à-dire avec les deux versants de l'empathie, c'est-à-dire à la fois la compassion, et en même temps, je dirais, la sympathie, vous voyez. C'est magnifique, je dirais, avec ces mots, ce qu'ils disent, finalement. Les entrailles, pourrait-on dire. C'est un homme qui a des entrailles. Pensez à la parabole, je dirais, du bon samaritain, vous voyez. Il y en a un premier qui passe, un deuxième qui passe, et finalement, un troisième, le bon samaritain, l'étranger, montre des entrailles. Il a des entrailles, voilà. Et ça, c'est, si vous voulez, je dirais, le deuxième aspect de sa crédibilité. Et il y a un troisième aspect. Vous voyez, Jésus, je prends les évangiles synoptiques, parce que le quatrième évangile johannique est déjà très, très tardif, et c'est une sorte de recomposition. Mais dans les synoptiques, les trois premiers évangiles, Jésus ne parle jamais de lui-même, hein. Il parle toujours de quelqu'un en troisième personne, le fils de l'homme, l'époux, etc. C'est-à-dire pour créer une sorte d'espace de liberté radicale, où ceux et celles qui viennent à sa rencontre puissent réellement se prononcer par rapport à lui. Voilà, je pense que c'est ça, si vous voulez, qui caractérise très fondamentalement cette crédibilité qu'il a su, je dirais, réellement mettre en œuvre et qui est une manière, au fond, de rendre, non pas lui-même crédible, mais de rendre cet évangile du règne de Dieu crédible. Voilà. Dieu s'est approché. Dieu s'est approché. Et vous sentez tout de suite cette extraordinaire différence par rapport au plus grand des prophètes, c'est-à-dire le Baptiste. Alors, tout ça se fait, évidemment, je dirais, dans un réseau de rencontres. On peut citer ici le terme « hospitalité », qui, à mon avis, dit, au fond, je dirais, le mieux, l'exercice de son ministère. C'est-à-dire, il y a quelques maisons, notamment à Capharnaüm, la maison de la belle-mère de Pierre, et ensuite Béthanie, c'est-à-dire près de Jérusalem. Mais Jésus était un itinérant. Mais on peut être itinérant quand on a une base de départ et de retour, vous voyez. Et donc très vite, se crée autour de lui, au fond, des gens qui sont dans les maisons Et il y a, je dirais, ceux qui prennent la route, je dirais, avec lui. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Et au cœur de ça, il y a une expérience d'hospitalité. Et vous voyez, le propre de cette épître aux Hébreux, qui a une formule extraordinaire dans le chapitre 13, je pense que c'est au verset 2, si vous voulez chercher. « Soignez bien l'hospitalité, parce qu'il est arrivé à certains de recevoir des angelos et des anges sans le savoir. » Et voyez, ça, c'est le propre, je dirais, de l'hospitalité qui présuppose une sorte de vulnérabilité fondamentale. C'est-à-dire, on accueille à l'improviste aujourd'hui celui qui arrive, qui se présente. Et en français, on a, c'est pas dans beaucoup de langues, on a cette possibilité, on ne sait jamais qui est hôte. Est-ce que c'est celui qui accueille ? Bon, vous voyez, l'hospitalité est évidemment réussie quand celui qui est accueilli devient lui-même celui qui accueille. Vous voyez, cette sorte de mutualité. Et c'est au fond ça, si vous voulez, cette sorte de, d'utopie réalisée qui se vit, je dirais, dans ce pays, je dirais, de Galilée, autour de du lac. Alors, il faut tout de suite ajouter que l'hospitalité, c'est quelque chose, nous le savons très bien aujourd'hui, quelque chose de tout à fait dramatique en même temps. Parce que qui va frapper à la porte ? Est-ce que c'est l'ami ou est-ce que c'est un ennemi qui va frapper à la porte ? J'y reviendrai tout à l'heure à cette question, je dirais, tout à fait centrale autour de la fin de la vie de Jésus. Alors, peut-être encore une dernière remarque ici, avant de parler de la mort et du procès de Jésus, une dernière remarque. Comment Jésus a-t-il exercé son ministère de rendre présent l'évangile de Dieu? Il y a au fond trois choses qu'on peut dire ici, trois actes. La première chose, les historiens l'appellent thaumaturge. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un thaumaturge, c'est-à-dire un guérisseur, vous voyez. Il a guéri. Il a guéri les gens. Et si vous voulez, ça c'est quand même, je veux dire, la toute première chose qu'on voit dans les évangiles. Alors pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important? Parce qu'évidemment, je dirais, accéder à la bonté radicale de Dieu, c'est le plus difficile quand on est marginalisé dans la société, quand on est malade, etc., quand on est victime d'une agression, d'une maladie, etc. Et donc, il y a d'emblée chez Jésus cet intérêt pour les derniers, pour les plus blessés, les plus fragilisés dans la société. Parce que c'est peut-être facile de, entre guillemets, de faire entendre cette nouvelle de bonté radicale, c'est-à-dire ta vie est gardée et sauvegardée à des gens qui sont des bien portants. Hein. Il y a toujours cette formule, les bien portants n'ont pas de médecin, voilà. Hein, voyez. Mais comment faire entendre cette nouvelle à des gens, voilà, qui ne sont pas bien portants? Et donc là, on a toute une tradition qu'on appelle tradition messianique, que Jésus reprend, je dirais, ici. Et on pourrait dire, moi j'aime bien dire ça, au fond, il a l'art de communiquer sa propre santé à d'autres. Et voyez, la santé, je dirais, à l'époque, on l'a un peu perdu, on le retrouve peut-être aujourd'hui, cette idée d'une santé intégrale, vous voyez, qui n'est pas uniquement une santé physique, mais aussi une santé psychique, c'est-à-dire qui concerne l'intégralité de l'être humain, je dirais, dans la création. Et c'est exactement ce qui se passe, parce que pour Jésus, la clé de cette santé, de ceux et de celles qu'il guérit, c'est leur foi. Vous voyez, une foi extrêmement simple et élémentaire. Cette magnifique formule... qui est tout à fait original, je dirais, chez lui. Ma fille, mon fils, c'est ta foi qui t'a sauvé. Vous voyez, vous n'avez pas cette idée Jésus comme sauveur ici. Si, il est sauveur au sens où il suscite dans l'autrui, je dirais, des forces d'auto-guérison. Voilà. Je le traduis de cette manière-là. Voilà. Et je dirais, le cœur de l'auto-guérison, c'est finalement cet acte de foi très élémentaire. Je dirais, la vie, ça vaut la peine d'être vécue, vous voyez. C'est ça, je dirais, l'évangile, la nouvelle de bonté radicale, inconditionnelle, exprimée ici d'une manière très personnelle et unique par rapport à chacun. Voilà. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, je ne vais pas entrer dans le détail de ça, mais les linguistes et les gens des sciences de la littérature l'ont souvent observé, les évangiles, c'est une littérature très curieuse, hein, d'un point de vue stylistique, parce que c'est Erich Auerbach qui a fait pour la première fois à la fin de la Deuxième Guerre mondiale cette analyse. Parce que, comment dire, dans la culture grecque, il y a la haute littérature, qui est une littérature biographique des héros, hein, et comment dire, le bas peuple, entre guillemets, comme on disait, a le droit à la satire, à la ridiculisation. Et là, il y a une sorte de d'émergence dans cette Galilée, d'un rapport à tout être humain dans son unicité, dans sa fragilité, sa blessure, etc. Et donc, c'est dans la rencontre avec Jésus que se communique, je dirais, sa propre foi à ces personnes. Mon fils, ma fille, donc ça c'est une relation d'engendrement, c'est ta foi qui t'a sauvé. Dans un espace, je dirais, hospitalier. Ça c'est la première chose. Ensuite, évidemment, c'est un poète, un paraboliste, comme on dit. Il y a 36 paraboles, comment dire. Mais Jésus a raconté les paraboles de telle manière que d'autres en peuvent en inventer. Les historiens nous montrent qu'une seule, une petite partie des paraboles que nous connaissons aujourd'hui sont de Jésus. Mais il y en a bien d'autres que les premiers chrétiens ont ensuite inventées. Ça veut dire qu'il a fait de la poésie, il a raconté ces petites histoires que vous connaissez de telle manière que ça donnait le goût à d'autres d'inventer d'autres, de susciter une créativité. Alors ces paraboles, évidemment, sont adressées à chacun. Et c'est, au fond, je dirais, une manière de nous montrer par une parole poétique, hein, que nos sens, qu'il s'agisse de nos oreilles, nos yeux, voilà, hein, le toucher, le goût, etc., sont des sens qui sont souvent obturés. Et ça fait partie aussi de notre maladie. Et les paraboles ont cette fonction que tout d'un coup, les aveugles voient, voilà, les sourds entendent quelque chose. Je dirais, du mystère, je dirais, de la réalité et de l'existence humaine et de la création. Et le troisième type de présence évangélique de Jésus, c'est ce qu'on pourrait appeler son discours éthique, vous voyez, hein, que vous trouvez par exemple dans le sermon sur la montagne. Évidemment, comme juif de son époque, Jésus a totalement respecté la loi de Moïse. On a parfois dit le contraire, mais ça paraît de plus en plus clair, je dirais, aujourd'hui. C'était un juif pieux, si je puis dire, qui a respecté la loi de son époque. Mais, voilà la différence, il était parfaitement conscient qu'intimer la loi, ça ne résout rien. Ça ne résout rien. Et comment dire que le problème de l'existence et le problème de l'évangile, de cette nouvelle de bonté radicale inconditionnelle, c'est de permettre aux personnes de trouver le goût du bien, de faire le bien avec du goût, de se réjouir du fait, voyez. Et on retrouve ça à travers tous les textes, finalement. Et donc, ça s'inscrit évidemment dans la grande tradition biblique de l'époque de Jésus. Mais il lui donne quand même, je dirais ici, une couleur, et plus qu'une couleur, une insistance tout à fait particulière. Alors, ça nous conduit donc finalement vers le dernier point. Mais pourquoi finalement, la crucifixion, qu'est-ce qui a pu se passer? Et donc, on va bien, je dirais, c'est peut-être la chose la plus mystérieuse dans l'histoire, je dirais, de notre humanité. Peut-être nous l'éprouvons aussi parfois. Dans une des prédications de Pierre, dans les Actes des Apôtres, il dit, il a traversé le pays en ne faisant que du bien. Comment quelqu'un qui ne fait que du bien peut-il susciter des réactions? Alors c'est une sorte d'énigme, c'est l'énigme du mal finalement, auquel on n'a pas, je dirais, de réponse à cette question. En tout cas, c'est ça ce qui s'est produit, c'est-à-dire des conflits en particulier avec ce qu'on appelle la caste sacerdotale. Vous voyez, les Sadduciens, qui est cette caste qui tient l'autorité liturgique et doctrinale dans le temple, et qui se caractérise par un élément tout à fait décisif, c'est-à-dire, comme écriture sainte, il n'accepte que le Pentateuque, avec évidemment le Lévitique, je dirais, au centre. Et donc c'est au fond progressivement un conflit qui se dessine avec ce groupe. Alors pour les pharisiens, je dirais, les historiens nous disent aujourd'hui, c'est plus ambivalent, parce que finalement, qu'est-ce que c'était les pharisiens? C'était des géniaux pédagogues qui disaient très bien, je dirais, la loi c'est bien, mais il faut éduquer le peuple. Et donc ils ont construit les synagogues, un peu, vous voyez, c'est les curés, comment dire, synagogos, je dirais, de l'époque, pourrait-on dire. Et donc, au fond, Jésus était assez proche, n'est-ce pas? Et on voit qu'il mange avec eux, il est quand même en conflit aussi avec eux. Et il y a un déclencheur. Il y a un déclencheur, c'est-à-dire de ce conflit qui conduit vers la fin, c'est son geste prophétique dans le temple. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? J'ai dit, la maison, il cite, la maison de mon père est une maison de prière. Il renverse les tables des gens avec leur monnaie, etc. Donc un geste, je dirais, pourrait dire d'une douce violence. Mais quand même, c'est un geste assez violent. Et il faut voir comment dire que les prophètes de l'Ancien Testament posaient des gestes prophétiques. C'est une sorte de, comment dire ça, je dirais, je pense qu'il y a une traduction de cette célèbre formule que Saint Jean nous rappelle, « Le zèle de ta maison me dévore ». Et Martin Luther traduit « Le zèle de ta maison me bouffe ». Je dirais, c'est le langage un peu ordinaire au XVIe siècle. Et il y a quelque chose de ça chez Jésus, vous voyez. À un moment donné, je dirais, la force de l'évangile l'habite tellement, voilà, il est, comme tout juif, il va à Jérusalem, et il y a donc là ce geste. Et donc, on lui fait le procès de faux prophètes. De faux prophètes. Et ça, c'est fondé dans le Deutéronome, vous trouvez ça. Le procès de faux prophètes. Voilà un faux prophète. Et vous voyez, il y a une frontière extrêmement, je dirais, fragile entre l'autorité, je reviens au point de départ, et la présomption. En effet, je dirais, ce qui caractérise le faux prophète, c'est la présomption. Et si vous regardez les textes, c'est au fond ça, je dirais, le titre d'accusation qui revient. Donc, on lui fait le procès. Et alors... la question que les historiens se posent, mais Pilate, n'est-ce pas, n'avait rien à voir avec ça. Comment Pilate pouvait-il être entraîné? Et alors là, il y a le passage, vous avez le titre de la croix qui est absolument historique, Rex Iudaeorum, le roi des Juifs, voilà, ce qu'on appelle le titulus crucis, le titre de la croix, et chez Saint Jean, on a mis dans l'évangile de Jean, on a même les trois langues, c'était en hébreu, en grec et en latin que c'est affiché. Et donc, on passe du faux prophète, la présomption, vers la prétention à la royauté. Et donc, les historiens nous ont montré quelque chose d'absolument remarquable, parce qu'on a maintenant énormément de documents juridiques, c'est-à-dire, Pilate était obligé, je dirais, de confronter Jésus et de dire, est-ce que tu es le roi des Juifs? Et ce qui est spirituellement et historiquement la chose la plus énigmatique, Jésus s'est tu. le silence de Jésus pendant le procès. Et donc, le silence signifiait qu'il s'est accepté coupable et donc l'exécution a suivi. Alors, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, évidemment, je dirais, au moment où les deux communautés, tu l'as évoqué tout à l'heure, commencent à se séparer, et notamment après la destruction du temple, après 70, il y a une polémique énorme qui naît entre les deux. Et nous, nous sommes les héritiers, je dirais, au fond de cette polémique, et je dirais d'un certain antisémitisme aussi, ou anti-judaïsme, qui a été simplement, je dirais, clarifié de manière extraordinaire par le Concile Vatican II. Et donc, vous voyez, ça naît à ce moment-là. Et donc, les historiens, et il faudra interroger Yann Daffé là-dessus un peu, ils montrent, je dirais, aujourd'hui, que les Sadduciens, en fait, ce n'est pas une question de jalousie uniquement, comment dire, mais ils ont fait ce que, selon leur propre doctrine, ils devaient faire. Le Baptiste est un faux prophète et Jésus est un faux prophète. Et légalement, ils ont passé le bébé, si je puis dire, à Ponce Pilate, donc situation d'occupation, et Ponce Pilate a fait ce qu'il fallait. Voilà. Et donc, vous voyez, je dirais, dans les textes, si on les analyse un peu en détail, ce que font les linguistes et les historiens, je dirais, aujourd'hui, d'une manière tout à fait admirable, avec une grande probabilité, vous voyez, apparaît à ce moment-là précisément le mystère du personnage Jésus avec beaucoup de plus de force. Pourquoi il s'est tu? Et les évangélistes utilisent ensuite les psaumes. Pourquoi s'est-il tué? Vous voyez, il n'a pas pris la posture de Socrate, par exemple, le procès de Socrate, qu'on évoque souvent en parallèle. Il s'est défendu. Voilà. Et il ne prend pas la posture de quelqu'un qui est devant Pilate et dit « Mais ce sont des malentendus. Il aurait pu le faire. » Il se tait. Et voyez, ça c'est, si vous voulez, je veux dire, l'ultime marque sur cette histoire, je veux dire, d'un point de vue historique, il ne se défend pas parce qu'il attend tout de Dieu. Il attend tout de Dieu. Vous voyez, c'est là où il y a ce cri final, ça c'est commun. Et vous voyez, les premiers chrétiens l'interprètent différemment. Ils prennent le psaume 21, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il prend le psaume, je pense, 31, « Entre tes mains, je mets mon esprit. » Ou dans le quatrième évangile, voilà, « J'ai soif », psaume 21, « Tout est accompli. » Vous voyez, c'est une interprétation, au fond, je dirais, de ce silence qui se termine, je dirais, par un cri. Voilà, je pense ce que je viens de vous dire un peu. Aujourd'hui, tout le monde qui se confronte un peu honnêtement avec ce personnage peut dire ça. Alors, on peut le détailler, on n'a pas trop le temps pour ça. Alors, j'en viens à mon deuxième point maintenant, deuxième partie, la bifurcation. La bifurcation, elle consiste en quoi? Je viens de parler d'un personnage historique. Alors, un personnage historique, vous voyez, dans le ministère, a duré, grosso modo, les historiens nous disent, peut-être 2 ans et demi, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et c'est la parabole de la plus petite semence, vous voyez. C'est un rien, un presque rien, un bip sur l'histoire de l'humanité. Voilà. Un presque rien. La parabole de la petite semence, voilà, dont sort, je dirais, le plus grand des arbres dans lequel nichent les oiseaux, etc. Donc, il y a effectivement une grande histoire qui en est sortie. Il y a la séparation plus ou moins violente des deux communautés qui étaient très proches, finalement, encore au début. 70, la destruction du temple. La tradition chrétienne existe déjà, c'est déjà 2 générations, et c'est à partir de la destruction, l'incendie du temple, que les communautés commencent, je dirais, à se séparer, et que la communauté chrétienne invente de nouveaux marqueurs d'identité. Donc ce n'est plus la loi de pureté, c'est le plus important. Donc la loi de pureté qui sépare l'hospitalité, c'est la mixité sociale, on le voit dans les communautés pauliniennes. Ce n'est plus la circoncision, voilà, négativement. Des rites nouveaux qui sont inventés, à la fois le baptême et notamment des rites d'hospitalité, le manger ensemble, la scène, etc. Et donc, le point le plus important, le temple et la terre ne sont plus un enjeu. Et donc, vous voyez, les communautés ont commencé à se séparer quand le judaïsme de l'époque, notamment, je dirais, les zélotes, etc., se sont enfermés dans le temple pour le défendre contre les Romains. Et les chrétiens ont dit, c'est pas un enjeu. La terre n'est pas un enjeu. La Galilée, ça peut être partout dans le monde. Partout dans le monde. La Galilée des nations, vous voyez. Ils reprennent cette formule. La Galilée des nations. Et donc, est sortie, si vous voulez, je dirais, de ce bip de l'histoire, est sortie une longue histoire, je dirais, de 2000 ans. Hein, de deux communautés en conflit, les ghettos, les exterminations, les pogroms, je dirais, la Shoah, et ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Voyez. Donc, à la fois 2000 ans, et c'est encore extrêmement proche. Et donc, finalement, la bifurcation ici, on fait aujourd'hui une différence, et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui la font, et beaucoup d'autres qui s'intéressent, je dirais, à ce personnage de Jésus, entre d'un côté la cause qu'il a défendue et la personne. La cause qu'il a défendue. Et beaucoup de gens, je dirais, dans nos cultures, on pourrait presque dire que les valeurs de la République, la l'égalité, la liberté, la fraternité, au fond, sont un résultat de la cause de Jésus, de ce qu'il a défendu. Mixité sociale, la solidarité, quelques problèmes avec la fraternité, évidemment, la liberté, l'égalité de tous, le combat pour les exclus, pour les plus fragiles, quand on voit toutes les tentatives autour de nos législations sociales, etc., le débat sur les immigrés. Hein. Et donc, on pourrait dire c'est la cause de Jésus qui a survécu. Et beaucoup de gens pensent ça. Mais voyez, ce n'est pas exactement la même chose que s'intéresser à la personne de Jésus. Vous voyez comment la notion de rencontrer Jésus ici commence à se différencier. Voilà. Pourquoi je m'intéresse à lui aujourd'hui? Est-ce que c'est pour ce qu'il a défendu et pour ce qu'il est mort, ou est-ce que c'est sa personne? Et vous voyez, c'est là où apparaît ce que les premiers chrétiens appellent avec un mot, il est ressuscité. Vous voyez, c'est là où il y a la bifurcation. Il est ressuscité, il est encore vivant aujourd'hui. Et les premières communautés chrétiennes ne se sont pas fondées sur une cause, mais elles se sont fondées sur la personne de Jésus. Et ils s'appelaient d'abord les gens de la voie, et ensuite, très rapidement, j'ai traduit des chrétiens. Parce que quand on dit chrétien, c'est un terme finalement assez contemporain, on est dans la comparaison des religions, vous voyez. Mais chrétiens, qu'on les a appelés chrétiens, Antioche, c'est les gens du Christ, voilà. Du Christ Jésus, voilà. Du Messie, voilà. Mais alors, un curieux Messie, évidemment, voilà, hein, qui est mort, je dirais, comme un brigand, comme un malfaiteur sur la croix, qui s'est tué, qui ne s'est pas défendu. Vous voyez ce que ce terme peut aussi provoquer comme malentendu. Et donc, ils disent, il est ressuscité. Alors, je veux dire, pourquoi ils disent ça? Vous voyez, il y a deux, peut-être trois éléments fondamentaux qui permettent un peu, je dirais, comprendre, je dirais, de quoi il s'agit. Je dis, la première chose, il ne faut pas oublier que l'attente générale de la résurrection existait à l'époque. Donc c'était une croyance assez répandue qui n'était pas la croyance, je dirais, des Sadduciens que j'ai évoqués tout à l'heure, mais on le retrouve un peu dans les livres prophétiques et beaucoup plus tard, évidemment, dans le judaïsme, comme on dit, du deuxième temple. C'est une croyance assez répandue. Et pourquoi cette croyance? C'est, au fond, je dirais, c'est une émanation de l'idée de la justice de Dieu. C'est lié à l'idée du jugement. On ressuscitera pour que la justice de Dieu peut vaincre, pour que ceux qui ont été victimes dans l'existence du mal des autres, etc., puissent être récompensés. Vous voyez, cette sorte de vision, je dirais, d'un Dieu, de justice. Et l'idée de résurrection, c'est une implication de ça. Mais Jésus aussi, il croyait en la résurrection générale. Voilà. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore, je dirais, c'est ça la grande question, peut-être une de nos grandes difficultés, est-ce qu'on peut encore présupposer, d'une certaine manière, cette vision d'une résurrection généralisée? On pourra peut-être revenir tout à l'heure un peu comme question. Mais je dirais ici, c'est au fond le mystère de la mort qui est en jeu ici d'abord. C'est-à-dire, tant que les générations, je dirais, se suivent dans la vie, d'un point de vue, je dirais, biologique, pourrait-on dire, la mort émerge seulement comme réalité au moment où vous avez quelque chose de bisexualité. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui disparaissent effectivement et il y a des nouveaux êtres qui sont en train d'émerger. Et ce qui caractérise l'être humain, je fais un tout petit peu de philosophie ici, ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'il est conscient du fait qu'il est mortel. C'est ça qui nous caractérise finalement. Et on va bien, je dirais, dans les grandes caves qu'on a découvertes, au fond, les premiers dessins qu'on a, hein, c'est exactement ça, c'est-à-dire cette sorte de représentation, voilà, de la limite de l'existence humaine, avec les enterrements, etc., toutes les ritualités qui se développent autour de ça. L'être humain est conscient de sa mortalité. Et voyez, ça suppose, au fond, je dirais, une idée, disons, ou une vision, ou une utopie, on peut utiliser beaucoup d'autres termes pour clarifier ça. Nous sommes conscients de notre mortalité, parce qu'au fond de notre existence habite un désir d'accomplissement. Voilà. Un désir d'accomplissement. Mais évidemment, on n'a aucune représentation de ce que pourrait être cet accomplissement. C'est un terme de genre, n'est-ce pas, Johannique, que ce pourrait être cet accomplissement. Et ce qui est le propre, au fond, de l'Écriture, qu'elle nous propose des métaphores extrêmement simples, l'arbre de la vie, l'olivier, etc. C'est tout, finalement. Et on pourrait dire, cette croyance fondamentale en la résurrection, c'est au fond une prise de conscience d'un potentiel de maturation qui est en chacun de nous et qui apparemment est à un moment donné interrompu avec la mort, mais avec quand même, je dirais, quelque chose absolument extraordinaire entre la naissance, je dirais, et la mort. Il y a quand même l'expérience de notre unicité qui se fait. Imaginons quelques instants, voilà, que la vie continuerait indéfiniment. Vous voyez, ça serait l'enfer. Et rien n'aurait du poids. Il y a du poids dans l'existence, il y a maturité, maturation, parce qu'il y a un commencement, il y a une fin. Et c'est au fond ça, je dirais, le mystère, je dirais, qui émerge dans toute l'écriture, avec une question, finalement, ce qui est en train d'advenir dans chacune de nos existences, est-ce que c'est une promesse de vie, ou est-ce que c'est une promesse non tenue? Est-ce que c'est une promesse de vie, ou une promesse non tenue? Et c'est là où intervient, au fond, je dirais, le rapport de Jésus à la question de Dieu, c'est-à-dire un Dieu de bonté radicale, inconditionnelle, et il est difficile de croire en ce Dieu si on n'y implique pas la résurrection. La foi en la résurrection. N'oublions pas que c'est une métaphore aussi. Hein. Ressusciter, c'est faire lever, vous voyez. Hein. C'est l'image qui est utilisée, qu'on a d'ailleurs sur certaines images. Et donc, vous voyez, là, il y a une sorte de bifurcation. Je reviens ici à ça, qui apparaît ici et qui est très nette dans le Nouveau Testament et qui conduit, je dirais, l'apôtre Paul en particulier à proposer une conception de Dieu qui est à la fois biblique et qui est en même temps radicalement nouveau. Par exemple, vous avez ça dans l'Épître aux Romains, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Oui ou non? Oui ou non? Le Dieu, voilà, c'est finalement la seule raison, voilà, de croire en Dieu. Est-ce que c'est le Dieu qui fait vivre les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas? Qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, c'est-à-dire tout l'univers. Hein. C'est la foi en la création. Et donc, il y a, si vous voulez, là, une sorte de cercle. J'espère que j'arrive à vous faire comprendre ça. C'est-à-dire, quand je dis « je crois en Dieu », est-ce que je crois vraiment à quelqu'un, entre guillemets, voilà, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, voilà, et qui fait vivre les morts. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire je peux me dire, peut-être je ne crois pas encore réellement en Dieu. Voyez. Et donc, vous voyez, il y a une sorte de chemin, voyez, qui s'ouvre ici. On pourrait dire pour l'apôtre Paul, Dieu et la résurrection se définissent mutuellement. Et c'est seulement si vous dites ça, c'est vraiment la question de Dieu qui est en jeu, que vous pouvez dire, je rencontre aujourd'hui Jésus vivant. Je ne m'intéresse pas uniquement à sa cause, mais je m'intéresse à sa personne vivante, c'est-à-dire qui engendre d'autres personnes à la vie. Alors, je suis presque au bout, quelques instants. Dans l'Église, voilà. Alors, ce que j'ai quand même, je tiens beaucoup à ça, envie de dire d'abord, on ne le rencontre pas uniquement dans l'Église. Et justement, ceux qui s'intéressent à sa cause, voilà, ça suppose beaucoup de foi élémentaire pour s'intéresser aujourd'hui à sa cause, de défendre les exclus, etc., etc. Donc, c'est pas comment dire, déjà dans le Nouveau Testament, c'est pas une conception exclusive. Vous voyez, quand vous lisez chez Matthieu, par exemple, vous êtes allés les prisonniers, les malades, etc. Quand est-ce que nous avons fait ça? Et il y a des gens, voilà, qui le font, qu'ils soient chrétiens ou non, ce n'est pas la question pour l'évangéliste de Matthieu dans cette célèbre parabole du jugement dernier. Donc il faut bien tenir à ça, on peut rencontrer ce Jésus, sa cause, bien en dehors de la sphère ecclésiale. Alors, je dirais, dans l'Église, il y a un chemin pour ça. Et qui est, au fond, comment dire, un chemin qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, c'est un long chemin. Parce que rencontre suppose d'abord qu'on rencontre effectivement quelqu'un, mais vous avez cette extraordinaire formule chez l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ Jésus qui vit en moi. Et voyez là, il y a un itinéraire. Et ça uniquement, si vous voulez, vous pouvez le dire, si vous intéressez pas uniquement à sa cause, mais vous intéressez à sa personne, et vous découvrez progressivement que cette personne vous a transformé de l'intérieur. Et il y a un double langage dans l'Écriture pour ça. Vous avez à la fois le langage de la suite, suivre Jésus. Alors ça, c'est le langage des synoptiques, c'est-à-dire mettre les pas dans les siens. Et donc, ce qu'on essaye de faire, je dirais, je l'espère, dans l'Église, de mettre les pas dans les siens. Et Paul, il a un autre langage. Il parle de l'imitation. Ça, c'est le langage de l'époque, des éducateurs de l'époque. Parce que l'éducation, évidemment, est fondée sur l'imitation, la mimesis, voilà, l'imitation, voilà, l'exemple. Voilà. imitez-moi comme moi j'imite le Christ Jésus. Mais évidemment, avec, je dirais, chaque fois un problème, c'est-à-dire imiter quelqu'un, ça permet de découvrir que ce qui est inimitable en lui et ce qui est inimitable en moi. Voyez. Donc c'est ça, si vous voulez, je dirais, cet itinéraire d'une rencontre effective avec quelqu'un et où finalement, dans cette rencontre, on est radicalement renvoyé à sa propre singularité. Et donc, il y a, si vous voulez, quatre chemins à ça dans l'Église. D'abord, lire les Écritures, c'est la première chose. Et Saint Jérôme a dit un jour, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Voilà. Et donc, ça, c'est, si vous voulez, je dirais, le premier moyen. Ensuite, je dirais, le sacrement du frère, c'est la deuxième chose, absolument fondamentale. C'est-à-dire... le bon samaritain. Je ne sais pas si j'ai des entrailles. Le moraliste dit, il faut que tu aies des entrailles. Il faut que tu sois comme le bon samaritain. C'est ridicule de dire ça. Vous voyez, Jésus ne parle pas de cette manière-là. C'est-à-dire, on est sur un chemin et découvre tout d'un coup qu'on a effectivement des entrailles ou on en manque dans telle ou telle situation. Vous voyez. Et donc ça, c'est la deuxième voie. Voilà. Parce que c'est la vie qui forge ça en nous. Le troisième élément, c'est le baptême. Mais vous voyez, je ne prends pas le baptême ici sous forme de rite, mais vous avez là aussi chez Paul une formule extraordinaire, revêtir le Christ. C'est-à-dire la rencontre dans l'Église conduit jusqu'à ce que le Christ devienne mon vêtement. Mon vêtement. Et donc le rite veut signifier et célébrer cela. Et dans la nuit pascale, voilà, on y revient. Et finalement, la nourriture. Vous voyez, c'est des choses extrêmement simples que le christianisme primitif naissant a inventé. L'eau, voilà. Revêtir le vêtement et manger et boire ensemble. Voilà. La scène, l'Eucharistie, c'est-à-dire le Christ qui nous nourrit. C'est cette relation qui devient nourriture. Et vous avez dans la célébration de la scène, j'ai dit l'Eucharistie, vous avez ce qu'on appelle la doxologie finale, par lui, avec lui et en lui. Et donc vous voyez, vous l'avez là, le mouvement d'intériorisation. Voilà, si vous voulez, j'ai dit les quatre éléments d'une rencontre du Christ Jésus dans l'Église. Et donc le reste, c'est suivre et l'imiter, voilà, au jour le jour. Et je termine avec cet extrait de l'hymne d'un chant, comment dire, que les premiers chrétiens ont inventé, « Sans te voir, nous t'aimons ». Donc vous voyez, c'est ça le mystère, hein? « Sans te voir, nous t'aimons », voilà. « Sans te voir, nous croyons ». Il y a la rencontre finalement, c'est ça, c'est-à-dire de dépasser les espaces et les temps dans un acte de foi, je dirais, et d'amour. Qui a des oreilles pour entendre, qui l'entend.
Eh bien, voilà, si la première question vous deux. Est prête.
Il y en a déjà deux là. Je vais me relever.
Peut-être les deux. Ouais.
Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire, parce que je sais qu'au Moyen-Âge, notamment dans l'Occident chrétien, certains disaient, mais pourquoi Jésus est-il allé naître là-bas? Est-ce qu'il n'aurait pas dû naître dans notre pays de cathédrale, dans notre pays de chrétienté, etc.?
À Paris.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être dans le projet de Dieu, pourquoi cette naissance à ce moment-là et dans cette culture-là?
Je vais prendre la deuxième question.
La deuxième question.
Non, vas-y.
Je peux retenir deux questions, peut-être une troisième après. Voilà.
Je ne sais pas quel passage, mais il me semble qu'on parle du retour du Christ, qui est un retour à un moment. Est-ce que vous pouvez développer un peu dessus? Est-ce que vous pouvez un peu développer dessus?
Tout à fait, oui, très, très volontiers. Mais d'abord, la première question. Je ne suis pas dans le projet de Dieu. Et peut-être, comment dire, il y a une théologie médiévale qu'on pouvait tout à fait comprendre. C'est-à-dire ce qu'on appelle une théologie descendante ou déductive. C'est-à-dire on part de Dieu, on part, je dirais, de ce qu'on appelle, c'est un terme de la littérature apocalyptique, du projet de Dieu. Prothésis tout théou, ne traduisez pas prothèse de Dieu, voilà. Prothésis, voilà. Le projet de Dieu. On part de là et on essaye de déduire. Alors, selon ce qu'on appelle à l'époque une nécessité de convenance, qu'on a pris dans les Écritures, ne convenait-il pas, vous vous rappelez peut-être du texte des disciples d'Emmaüs, Jésus qui dit à un moment donné, ne convenait-il pas que le Messie passe par tout ça pour accéder à son règne, voyez. Et donc on partait du projet de Dieu et on descendait à partir de ça pour analyser les convenances. Je vous dis, c'est devenu impossible aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que l'histoire est tellement importante. On procède d'une manière inverse. C'est-à-dire, on part du fait qu'il est né, tout ce que j'ai essayé de vous faire comprendre. Et on procède d'une manière inverse, et on dit, en quoi cela nous parle du dessein de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu, je dirais, cette manière de procéder? Et donc, vous pouvez à ce moment-là, évidemment, je dirais, comme théologien, avec toute la tradition chrétienne, des grands conciles, etc., vous aboutissez, je dirais, au terme d'incarnation. Donc, on est avec le premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean, le célèbre prologue. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous dit à la fin, ce prologue? C'est la fin de ma réponse, après viendra l'autre question. Qu'est-ce qu'il vous dit? Nul n'a jamais vu Dieu. Ah, ça c'est remarquable. Première évidence, et qui est l'évidence de Moïse, n'est-ce pas? Nul n'a jamais vu Dieu. Parce que, comme on dit dans le livre de l'Exode, on ne peut pas vivre et le voir. Vous voyez, c'est lié à la question, comment dire, de l'unicité de notre existence entre la naissance et la mort et ce potentiel d'accomplissement dont je vous ai parlé. C'est le mystère radical. Nul n'a jamais vu Dieu. Mais le texte continue. Mais le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous en a fait l'exégèse, littéralement traduit. Donc, pour Jean, Jésus, c'est l'exégète par l'excellence, l'interprète par excellence et ultime l'interprète de qui est Dieu. Alors, il y a quelque chose d'absolument magnifique ici. D'abord, une ambivalence, c'est-à-dire le sein de Dieu. Alors, ça vient d'oser, voyez, Dieu a un sein maternel. Et donc, vous voyez, on est au-delà ici du masculin et du féminin. Les Latins n'ont pas trop aimé ça. Ils ont traduit intima Dei. C'est magnifique aussi. Nul n'a jamais vu Dieu, mais celui qui habite dans l'intimité de Dieu nous en a fait l'exégèse. C'est magnifique. Jésus était dans l'intimité de Dieu. Il est dans l'intimité de Dieu. C'est plus abstrait, mais vous voyez comme chaque traduction, ça dit un peu autre chose. Voilà. C'est très juste. Et donc, ce Jésus, c'est ça l'incarnation, dans l'intimité de Dieu, il a rendu l'évangile présent, j'avais dit ça tout à l'heure, j'essayais de montrer comment, il en a fait l'exégèse, qui est Dieu. Et vous voyez, c'est la démarche tout à fait inverse et qui est la démarche fondamentale de la tradition chrétienne qu'on trouve à la fin de l'évangile de Jean, dans les discours d'adieu. Oui, tu m'interroges, Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Et donc, si vous voulez, je dirais, sur cette terre, est quelque chose qui s'est passé. Il y a un homme, voilà, Jésus de Nazareth, voilà, qui a traversé le Jourdain, qui est entré dans ce pays de Galilée, et en montrant que la Galilée, ça peut être partout. Aujourd'hui, on dit autour de la planète. Et donc, cette planète dans l'intimité de Dieu. Voilà. J'espère que j'ai un peu répondu. Voilà. Et l'autre question, je dirais, évidemment, les premiers chrétiens, ils pensaient, ils attendaient, et on a ça aussi dans les paraboles, pensaient, je dirais, aux paraboles des 10 vierges, etc. Il y en a plusieurs paraboles du banquet, c'est-à-dire que le temps se faisait court. Que le temps se faisait court. Et donc, ils ont dû découvrir, à travers, je dirais, les trois premières générations, ça a duré un certain temps, oui, que le temps de Dieu se fait court. Pierre dit, 1000 ans comme un jour, n'est-ce pas? Et que l'aujourd'hui est décisif. Mais il y a cette attente, je dirais, d'une rencontre ultime. Et on a ça dans cette magnifique formule, je dirais, dans l'Épître aux Corinthiens, quand Paul parle du repas du Seigneur, il dit, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Mais le texte reste indécis. Est-ce que c'est une venue à la fin du temps? Ou est-ce que c'est la venue, je dirais, maintenant, quand la communauté est réunie et célèbre le repas du Seigneur? Quand il se rend présent, je dirais, dans l'Eucharistie, ce qu'on a appelé la présence réelle. Et donc, il y a cette sorte de tension qui devient fondamentale, à un moment donné, entre le ici et le maintenant, l'aujourd'hui, la présence ici, et une sorte d'ouverture vers une fin que nous ne connaissons pas. Voilà.
Oui. Merci. Je voulais juste avoir un éclairage, ou comment vous pouvez faire l'éclairage sur lorsqu'un disciple veut enterrer son père et que Jésus lui répond « Laisse les morts enterrer leurs morts », oui, justement par rapport à ce que vous avez développé,
oui,
au niveau de la résurrection, etc. etc. Donc, comment on peut l'entendre, si vous voulez ?« Laisse les morts enterrer leurs morts ».
Oui. Parce que, comment dire, le prophète Élie, et il y a le rapport entre le maître et le disciple, Élie et Élisée. Et quand Élie appelle Élisée, c'est-à-dire pour Jésus, Élie est une grande figure, n'est-ce pas, qui revient plusieurs fois. Et quand Élisée vient, « Laisse-moi d'abord enterrer mon père, et après je vais te suivre. » Donc c'est là, cette question de l'héritage qui va suivre. C'est à ce moment-là qu'Élisée lui dit, oui, va enterrer ton père. Et alors Jésus, non, il ne dit pas ça. C'est une sorte de relativiser, je dirais, la question de la mort, et d'insister sur une urgence. Une urgence. L'appel, voilà, on l'entend, et alors... c'est évidemment, comment dire, possible parmi les itinérants. Hein. On est souvent des sédentaires, etc. Et ce qui est d'ailleurs le problème de la tradition chrétienne, quand il est devenu, comment dire, un christianisme, je dirais, d'État, à partir du IVe siècle, alors, je dirais, toutes les coutumes d'enterrement, etc., reviennent avec force, vous voyez. Et donc, on n'entend peut-être plus... Alors, il ne faut pas prendre ça à la lettre non plus. On n'entend peut-être plus cette sorte d'urgence. Si tu veux me suivre, ce n'est pas demain. Voilà. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Voilà.
Oui. Là, je me demandais, on entendrait souvent Jésus est mort sur la croix pour la rémission des péchés.
Oui.
Et dans l'interprétation de Jésus, vous ne parliez pas de cet aspect rémission des péchés. Ça m'avait un peu interrogé.
Oui.
Et aussi, je ne sais pas, si vous aviez une petite clé pour comprendre le lien entre la croix et la rémission des péchés.
Donc, oui, tout à fait. Oui. J'ai dit quelques petites observations. J'ai dit la première, comment comprendre, j'ai dit, il y a deux ou trois formules dans le Nouveau Testament. Il y a pour nous, pour notre péché, et donc il y a le pour d'abord, qu'il faut retenir, c'est-à-dire la croix de Jésus n'est pas un absolu, il faut d'abord prendre, je dirais, le sens historique, la cruauté, n'est-ce pas? Et les Sadduciens ont colporté après sa mort, j'ai dit cette formule du Deutéronome, « Maudit est celui qui est pendu sur la croix ». Paul va reprendre ça et va le retourner. Donc la croix est pour. Et alors pour nos péchés, ça veut dire d'abord de reconnaître ce que nous sommes. Et c'est la rencontre, si vous voulez, je dirais, entre, il s'agit de nouveau une rencontre, entre l'innocent qui s'est tu d'un côté, et face à lui, je découvre et nous découvrons qui nous sommes. Voilà. Alors ça, c'est très fortement souligné dans les évangiles synoptiques, n'est-ce pas? Vous avez là des personnes qui se frappent la poitrine et Jésus, ne vous lamentez pas sur moi, mais lamentez-vous sur vous, etc. Et donc, c'est une rencontre fondamentalement asymétrique, voilà, entre d'un côté l'innocent qui est crucifié et de l'autre côté, le regardant, nous découvrons ce que nous sommes. Voilà. Et donc ça, c'est, je dirais, le premier sens, alors qui est très fortement souligné par Jean. Vous rappelez peut-être la scène où on ne lui casse pas les jambes comme aux deux autres. Il est là, voilà, et il y a la lance qui le traverse. Il y a de l'eau et de sang qui sort. Vous voyez, c'est des symboles, justement, de la rédemption. Et ils regarderont, dit le prophète, celui qu'ils ont transpercé. C'est-à-dire face, je dirais, et je dirais, ça c'est une expérience humaine fondamentale. Tout d'un coup, je réalise ce que j'ai fait. Et donc, ça veut dire, je ne me déculpabilise pas sur les pauvres juifs ou Pilate qui l'ont crucifié. Vous voyez, jamais le Nouveau Testament fait ça, mais le Nouveau Testament implique tous ceux qui auraient pu faire exactement Judas en premier, Pierre, etc. Et donc, vous voyez, la rédemption pour nous, c'est d'abord ça, la découverte face à la croix. C'est pour ça que les chrétiens mettent la croix, pour découvrir qui nous sommes, et que la découverte de ce que nous sommes, ce n'est pas quelque chose uniquement dramatique, mais précisément, il y a de l'eau et de sang qui coulent de son côté, et nous sommes remis à l'évangile de Dieu dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, vous avez une déformation de ça, c'est-à-dire, à partir déjà du Moyen-Âge, et au Moyen-Âge tardif, on a traduit le « pour » comme « à la place ». Il a vécu ça à notre place. Et donc, vous voyez, là, comment dire, il y a quelque chose d'ambigu qui arrive, vous voyez. Quelque chose de profondément ambigu, comme si, je dirais, la crucifixion nous enlèverait, ou le salut nous enlèverait la liberté de vivre jusqu'au bout notre propre itinéraire. Et donc là, il s'agit de nouveau d'une rencontre, vous voyez. Alors, à l'arrière-plan de tout ça, ça, il faudrait un long développement, c'est les célèbres chants du serviteur que les églises chrétiennes lisent, voilà, pendant la semaine sainte. Voilà. Cette formule absolument étonnante, « Par ses souffrances, il nous a guéris. » Par ses souffrances, il nous a guéris. Et donc, il y a un symbole qui est au fond un symbole grec d'Asclépios, vous voyez, je dirais, que vous trouvez dans nos pharmacies, c'est-à-dire le bâton et le serpent qui se roulent autour, n'est-ce pas, et qu'on trouve aussi évidemment dans le livre de l'Exode, c'est-à-dire, c'est très mystérieux, c'est-à-dire, la vulnérabilité de l'autre, si je la regarde réellement, et si l'autre, alors ça c'est le cas du Christ Jésus, se présente jusqu'au bout dans sa vulnérabilité, et je le regarde en vérité, ça peut me transformer. C'est ça le salut.
Agathe, vas-y.
Ah oui, j'ai pas vu.
Une question à vous poser en lien avec la troisième partie que vous avez présentée sur la place de la prière dans la rencontre avec la personne de Jésus. Ah. Vous n'aurez pas parlé, du coup, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ?
J'ai uniquement à la fin nommé la doxologie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la prière de louange et d'action de grâce. Alors, évidemment, ça serait encore une autre manière, je dirais, de revenir à ma première partie. C'est au fond, comment dire, les disciples, comment ils ont pu découvrir, ceux qui l'ont suivi, l'intériorité de Jésus. Et ils l'ont découvert en le voyant prier. Et si vous voulez, c'est le côté très secret, ou disons discret, des récits évangéliques. Dans les récits évangéliques, on ne voit pas beaucoup, comme on voit uniquement, je dirais, les gestes, les paroles de Jésus, le thaumaturge, les paraboles, sa prédication éthique, etc. Mais il faudrait beaucoup de temps pour développer ça. À certains moments, on voit Jésus se retirer sur la montagne, dans le désert. Et donc, les disciples sont très intrigués de ça. Et ils demandent, « Maître, apprends-nous à prier. » Et je dis, ça, c'est une tradition, au fond, comment dire, dans le Nouveau Testament, on part du présupposé qu'on ne sait pas prier. Ce qui est très, très consolant pour moi. Peut-être pour vous aussi. Voilà. Saint Paul le dit dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, « Mais nous ne savons pas prier, comment prier ?» Mais l'Esprit intervient avec des gémissements ineffables et il prie en nous. Et donc, apprends-nous à prier. C'est-à-dire, selon le Nouveau Testament, on ne cesse d'apprendre à prier, à recommencer. Et prier, alors là, l'unique prière fondamentale de Jésus, c'est ce que nous appelons le Notre Père. Et donc, c'est la réalisation intérieure de notre relation de filiation. Et donc, ça, c'est absolument décisif. Et la première communauté chrétienne, qu'est-ce qu'elle a repris ? Elle a repris la prière juive, c'est-à-dire les psaumes, qui étaient le livre de prière de Jésus. Et les évangiles sont, notamment les récits de la Passion, je l'ai dit tout à l'heure, sont portés par les psaumes. Et donc, ils ont repris ça. Et l'Église jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un comme Martin Buber, donc des philosophes juifs, Rosenzweig et d'autres, ils disent, peut-être dans notre relation de juifs aux chrétiens, il faut qu'on reconnaisse que le psautier est devenu tout d'un coup un psautier mondial. C'est-à-dire parce qu'il est passé dans le monde païen, etc. Donc, l'apprentissage de prier est tout à fait décisif.
Dans votre première partie, en présentant la figure du Christ, vous avez beaucoup parlé de bonté radicale.
Oui.
Et enfin, j'ai un peu entendu ça comme si, finalement, le Christ n'était que cette bonté radicale, et que pour ça, il avait été pris dans les eaux du conflit et qui s'était retrouvé un peu victime à cause de cette bonté. Or, l'Évangile nous présente beaucoup de visages du Christ assez durs aussi.
Oui, oui, vous avez raison.
Par exemple, les insultes assez violentes qu'il adresse aux pharisiens et aux scribes, race de vipères, sépulcre blanchi, etc. Oui. Avec ses disciples aussi, hein, il y a des moments où il est assez violent sur le plan verbal. Oui. Vous avez parlé aussi de l'épisode des marchands du temps. Et du coup, ma question, c'est un peu, est-ce que finalement, on peut comprendre Jésus que comme cette figure de bonté radicale victime du conflit, ou est-ce qu'on ne peut pas aussi le voir comme une personne qui a assumer frontalement le conflit d'une certaine manière, d'une manière non violente, etc. En tout cas, non violente physiquement. Et si on peut, voilà, si on envisage cette autre figure, enfin cette autre représentation, quelle leçon on peut en tirer pour notre temps et notre vie chrétienne.
Merci beaucoup. C'est une question très très juste. Comment dire ça? L'épreuve pour lui, pour la bonté, c'est la dureté du cœur. Et je dis, il y a une barrière absolue et qui est très nette dans le Nouveau Testament face à ce ministère de guérison, etc. C'est la dureté du cœur, comment dire, une liberté qui est un sanctuaire et que même le Christ Jésus, voilà, n'y touche pas. Et donc ça, c'est peut-être une première chose à dire. Il discute avec le Satan dans les tentations, voilà. C'est une joute scripturaire, n'est-ce pas? Le Satan, Jésus cite l'Écriture, le Satan va réagir, etc. Et à un moment donné, stop! Voilà. Il n'y a plus de négociation possible. Voilà. Et donc, on a continuellement ces types d'arrêts, hein, alors qui sont très complexes, parce que, comment dire, on peut dire c'est la dureté du cœur. Mais la dureté du cœur s'exprime aussi, comment dire, par des mesquineries. Par exemple, peut-on, comment dire, guérir un malade le dimanche, oui ou non? Le sabbat, l'homme est-il pour le sabbat ou le sabbat est-il pour l'homme? Voyez, face, si vous voulez, je dirais, à cette bonté qui respecte la loi, mais qui, comment dire, et on a ça aussi dans les débats entre des talmudiques, on a ce type de questions, c'est pas absolument propre à Jésus, mais il y a une sorte de clarté à un moment donné, hein, où il perçoit qu'il pense en eux. Qui est cet homme qui pardonne les péchés? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Donc vous voyez, vous avez continuellement, je dirais, ce type de débat, et à un moment donné, il y a des arrêts. La dureté du cœur. Et alors, quand cette dureté du cœur est repérée, si vous voulez, socialement et politiquement, c'est-à-dire, ce n'est plus le pharisien chez lequel il est invité. Hein, Simon, je dirais, cette femme-là, voilà, qui a aimé le plus, etc. Donc là, on peut pas des paraboles, mais je dirais, quand un langage parabolique devient totalement inopérant, parce qu'on est en face, je dirais, d'une caste sacerdotale, d'une idéologie, pourrait-on dire, pharisien, etc. Alors, à ce moment-là, et il y a la sainte colère de Jésus qui sort. Et ça, c'est extrêmement important, parce que, comment dire, on pourrait avoir une vision très douceâtre de la bonté. C'est absolument pas ça. C'est un signe de grande force. Et je dis, la force, c'est quelque chose de tout à fait décisif dans le, pour caractériser Jésus. J'utilisais le terme « autorité ». Mais je dis, on perçoit qu'une force sort de lui, dynamis, qui devient le terme pour caractériser l'Esprit Saint. Et donc il y a du non négociable, comment dire, d'une certaine manière. Quand à un moment donné, on sent, je dirais, ça sent vénine, et il y a le mauvais esprit qui commence à s'y mettre. Et avec les disciples, c'est très rude. C'est très rude. Au point, comment dire, que les chrétiens de la communauté mathéenne et lucanienne ont eu du mal avec l'évangile de Marc. Parce que l'évangile de Marc, le plus court, c'est l'évangile le plus dur vis-à-vis des disciples. Et c'est, comment dire, c'est pour ça que sans doute une des raisons pour lesquelles Marc, c'est la foi ou pas la foi. Matthieu, c'est la foi, la non-foi et peu de foi. C'est magnifique, je trouve ça. Peu de fois. Et donc, il y a cette sorte de dureté qui est sans doute historique, parce que, pourquoi la dureté? Parce que c'est le malentendu fondamental, qu'est-ce qu'on attend du Messie? Et Jésus n'a jamais utilisé ce terme. Jamais il a utilisé. Il parle du Fils de l'homme, n'est-ce pas? Et donc, c'est là où apparaît une sorte de, je veux dire, de dureté, parce qu'ils ont bien voté par leurs pieds. C'est magnifique. Ils l'ont suivi, n'est-ce pas? Et on le voit. Et donc, il y a une relation qui est là. Et donc, une relation qui, dans la deuxième partie de l'évangile de Marc, après la première annonce de la Passion, peut devenir une relation d'éducateur à éduquer. Et à ce moment-là, apparaissent évidemment aussi des rudesses. Voilà, mais merci beaucoup, hein, pour cette question. Évidemment, pour nous, je dirais, aujourd'hui, c'est une sacrée question. Qu'est-ce qu'on appelle dialogue? Qu'est-ce qu'on appelle dialogue? Voilà. Ça suppose quand même que l'autre veut dialoguer. Et que progressivement, comme on dit, à une conversion des deux côtés, c'est-à-dire une expérience d'écoute réelle, et donc en dialogue, parce que non pas pour réaffirmer ses opinions, mais aussi pour changer d'avis peut-être. Voilà, donc, ça donne beaucoup à réfléchir aujourd'hui.
Je vais prendre encore, on va prendre encore d'autres questions.
Oui.
Je me sens tout à fait en communion avec ce que tu dis, bien sûr, sur plein de points. Il y a quand même quelque chose que je vais retenir. C'est qu'il est évident que Jésus est rentré en conflit avec les prêtres du temple. On est bien d'accord. Ça court tout le long des évangiles.
Oui.
Et ça se poursuit dans les actes des apôtres, puisqu'il menace les premiers disciples d'arrestation. Il y a même des coups de fouet. Donc il y a un conflit très fort entre Jésus et la caste sacerdotale, ce qui me laisse supposer que j'ai du mal à croire que Jésus a pu créer des prêtres. Mais c'est un gros sujet que je n'aborderai pas. En revanche, je crois qu'il est mort parce que comme Socrate, comme tant d'hommes merveilleux, il a été exécuté parce qu'il a dérangé, il a perturbé un système. Le système religieux de son temps, peut-être le système politique. Alors je terminerai sur cette parole qui est issue du Vatican et qui est proposée aux prêtres pour la messe actuelle en conclusion d'offertoire. Chaque fois que l'offertoire se termine, le prêtre dit ceci, les cathos dans la salle pourront répondre, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église et on répond pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ça, j'ai mis du temps à comprendre que c'est insupportable. Mais alors, la deuxième proposition que propose le Vatican aux prêtres est la suivante. Écoutez, je suis tombé de ma chaise. Priez, frères et sœurs, le prêtre, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père. Les sacrifices de toutes les religions, qui sont des trucs barbares, hélas, l'Église l'a reconnu. Il a fallu le sacrifice du Christ pour racheter les péchés et que ce soit agréable à Dieu, dit l'Église. Un Dieu pour qui il faut être agréable par le sacrifice du supplice de la croix. C'est scandaleux. Voilà ce que je veux.
Est-ce qu'on peut prendre une deuxième question?
Oui, je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris ce que vous voulez dire par bifurcation.
Oui.
Mais si je comprends bien, c'était ce qui a fait bifurquer la communauté des premiers chrétiens par rapport aux autres et à ceux qui sont restés juifs. Et vous avez situé cette bifurcation sur la question de la résurrection.
Oui.
Mais est-ce qu'on ne peut pas la faire remonter à la question de la filiation? Est-ce que tout simplement le fait que Jésus soit dit fils de Dieu, ce n'est pas déjà un embranchement qui est pris et sur lequel les juifs ne nous suivent pas?
Mais il ne s'est pas dit fils, comme ça. C'est ça, je dirais, aussi. On peut inverser la chose. C'est parce que la communauté croit en Jésus ressuscité, en sa résurrection, qu'elle croit aussi en sa filiation divine. Voilà. Parce que comment dire, il a fait quelque chose d'absolument inouï dans sa prière. Et ça, comment dire, les exégètes nous le montrent très bien. Il a utilisé un terme pour parler de Dieu qui n'était pas beaucoup utilisé à l'époque. Il l'a appelé Abba. Et les premiers chrétiens ont introduit ce terme araméen dans le texte grec. Ils l'ont gardé, toujours, Abba. Qu'est-ce que ça veut dire, Abba? Papa. Et donc, il a vécu effectivement dans cette intimité avec Dieu, mais comment dire qu'on n'a pas découvert comme ça? Je le disais tout à l'heure en réponse à la question sur la prière, les disciples l'ont vu prier. Et est-ce qu'il leur a dit, voilà, j'appelle mon Père Abba? En tout cas, quand vous priez, priez notre Père. Et donc là, il y a cette sorte d'intimité à Dieu, effectivement, que les chrétiens ont compris après la mort de Jésus, quand ils sont devenus chrétiens. C'est-à-dire, ils ont lié intimement la foi en celui qui appelle de néant que les choses existent et qui appelle les morts à exister, et la filiation divine en même temps. Ils ont compris ça. Et donc, il est le Fils unique. Mais c'est quand même, je dirais, une expérience d'une certaine manière hautement probable qu'ils ont fait après la débâcle de Jérusalem. Il ne faut pas oublier, ils ont pris quand même la fuite. Et ça a pris un petit moment quand même, je dirais. La symbolique du troisième jour, il faut la prendre comme un temps quand même assez substantiel. Et donc c'est Paul qui utilise le terme « il s'est montré, Dieu s'est montré, Dieu l'a montré vivant ». Voilà. 1 Corinthiens 15, qui est le texte par excellence qui nous parle de la résurrection. Et donc, ce n'est pas d'abord la filiation, c'est les deux, je dirais, intimement liés. Ils ont fait une expérience du Christ vivant qui leur a permis ensuite de relire les Écritures et de comprendre réellement l'identité de Jésus.
Est-ce que du temps de son vivant, Pierre n'a pas dit à Jésus « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant »
Ah, ça c'est la formule de Matthieu, effectivement, mais qui, comment dire, qu'on ne trouve pas chez Marc, par exemple, ou chez Luc, qui est une interprétation ensuite post-pascale de la parole de Jésus et de Pierre, de Simon. Ah oui, ça c'est... Mais comment dire, il faut bien voir le lien intime. Dans les discours des Actes des Apôtres, on interprète le célèbre psaume 110, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », comme un psaume qui se réalise avec la résurrection. C'est-à-dire, avec la résurrection, Dieu engendre réellement son fils à la filiation, voilà, pour toujours. Alors, votre question, voilà. Je vous rassure d'abord que moi, je ne dis jamais la deuxième formule. Quand je sais. Cela étant dit, qu'est-ce qu'on appelle sacrifice? C'est toute la question. Voilà. Relisez Paul, chapitre 12, n'est-ce pas? L'appel au culte spirituel. Relisez le chapitre 4 de Jean avec la Samaritaine. Où est-ce qu'il faut adorer? À Jérusalem? Ou sur le Garizim, etc. Non, le culte en esprit et en vérité. Et donc vous avez une sorte de déplacement qui n'est pas uniquement néo-testamentaire, mais que vous trouvez, c'est profondément prophétique, chez Jérémie, chez Isaïe. C'est-à-dire, le vrai culte, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est un cœur brisé, voilà, hein, un cœur qui a des entrailles et la capacité de mettre en jeu son existence. Et c'est finalement, comment dire, le sacrifice des lèvres, c'est-à-dire l'action de grâce, la gratitude. Et donc, voyez, le terme de, je dirais, de sacrifice, évidemment, il a une ambiguïté fondamentale, je vous l'accorde. Premièrement, l'Épître aux Hébreux dit « Les sacrifices sont tous terminés. L'unique sacrifice, c'est de celui qui est entré avec sa propre existence, son sang et sa chair, dans le sanctuaire de Dieu qui est toute la création. Voilà. » Et donc, il y a dans la tradition chrétienne une sorte de confusion. C'est peut-être ça que vous entendez, mais il ne faut pas jeter le bébé avec le bain, vous voyez. C'est plus compliqué parfois qu'on pense, voilà. Parce que quand vous dites « il n'y a rien de sacrificiel », voilà. Qu'est-ce que ça signifie, le sacrificiel? La confusion, c'est entre le sacré et le saint. Et le Nouveau Testament, Lévinas est peut-être un des premiers d'avoir réfléchi. Là, cette formule absolument extraordinaire dans les lectures talmudiques, les premiers cinq, sur le sacré et le saint, où il dit « Le monde n'est peut-être pas encore assez sécularisé pour comprendre ce que c'est la sainteté de Dieu. » Ça n'a rien de sacré. Voilà, rien de sacré. Et donc le Nouveau Testament n'utilise jamais le vocabulaire du sacré, mais il utilise le terme de la sainteté. La sainteté, la sainteté du Christ Jésus, la sainteté, la sanctification des chrétiens. Alors, en latin, on a le sacrum, on a le, même le sacrosanctum, vous voyez, le sacro-saint. Donc, vous voyez un peu, et peut-être aujourd'hui, à cause de la crise systémique un peu dans laquelle on est, pour utiliser le terme des abus, ce qu'on découvre, c'est le problème de la sacralisation du ministère. Voilà. Mais le ministère est décisif. Il est décisif, il est constitutif de l'Église. Je ne vais pas entrer dans ce sujet-là maintenant, mais c'est ça, peut-être la confusion. On avait une dernière question.
Une dernière question, oui.
Que oui, parce que sinon le temps...
Le temps tourne. Peut-être quelqu'un qui a...
Qui n'a pas encore pris la... Oui, c'est ça.
Merci. Bonsoir, merci pour ce que vous nous avez offert. J'aimerais revenir sur la proposition initiale qui était de rencontrer Jésus dans l'Église et au-delà.
Oui.
Et sans vous brusquer, est-ce que vous auriez quelque chose à dire à quelqu'un qui aime Jésus, le cherche,
oui,
mais a l'impression parfois de le rencontrer partout et pas, oui, forcément dans l'Église?
Oui. Oui. Non, mais c'est une réalité à laquelle on n'est peut-être pas assez sensible, voilà. Parce que, comment dire, quand on parle de l'Église, alors ça serait une autre conférence d'abord. Non, mais pas votre question. Les frontières sont fondamentalement poreuses. Ils sont fondamentalement, constitutivement poreuses, sinon on ne peut pas comprendre l'Église. J'ai parlé en termes d'hospitalité tout à l'heure. Oui. Et Saint-Augustin a cette formule extraordinaire qui est reprise par le Concile Vatican II. On peut en être de corps sans en être de cœur. C'est-à-dire on peut avoir fait la totale, hein, mais de cœur on est ailleurs. Ce qui veut dire on peut en être de cœur sans en être de corps. C'est ça que ça veut dire, cette frontière poreuse. Alors, quand je ne suis pas dans l'Église, voilà, ça m'arrive souvent, je dirais, dans mes rencontres. Par exemple, je suis beaucoup engagé dans le département de la Creuse, et un de mes grands amis, c'est un franc-maçon, et qui est dans ce qu'on appelle le cercle Condorcet. Mais j'ai une relation extrêmement forte avec lui, et notre rencontre est sur la base de ce que j'ai tout à l'heure. Il a une défense beaucoup mieux que moi, je dirais, de la cause de ce que Jésus a défendu. Alors ça, c'est absolument, je dirais, décisif dans son existence. Il connaît assez bien les Écritures. Il n'est pas, comme on dit, il ne fait pas partie de l'Église. Il est baptisé, sans doute. Je ne lui ai jamais posé la question, voilà, par discrétion. Il ne fréquente pas. Il fréquente beaucoup de chrétiens qui travaillent ensemble avec lui. Mais il n'est pas, comment dire, dans... Je dirais, dans ceux qui vont à l'Eucharistie, etc. Est-ce qu'il aime Jésus? Je n'oserais pas lui poser la question, à vrai dire. Et je n'ai pas non plus envie de lui dire « Ah, au fond, tu aimes Jésus ». Vous voyez, parce qu'il y a une sorte d'altérité et de discrétion qui me paraît tout à fait décisif dans une forte amitié, vous voyez. Mais il a un tel intérêt sur mon rapport à Jésus que je me pose quand même la question, pourquoi il m'interroge, je dirais, là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Et donc, parfois, je me dis, Dieu reconnaîtra les siens et ça suffit.
Mais merci beaucoup, Christophe. Oui. Donc jeudi prochain, je vais faire peut-être un ajout. Donc le mardi 26, nous aurons la prochaine conférence avec Dan Jaffe qui viendra d'Israël. Enfin, il sera là pour quelques semaines à Paris. Et avant ça, donc le jeudi de la semaine prochaine, dans une semaine exactement, ici au Dorothy aura lieu en partenariat avec l'association Confrontation, une conférence sur la question des écritures de la Bible face au fondamentalisme aujourd'hui. Ce sera à la fois une réflexion sur les ressources de la Bible pour faire face au fondamentalisme qu'elle-même peut-être engendre, d'une certaine façon malgré elle. Avec un exégète jésuite lui aussi et une pasteur protestante. Vous êtes les bienvenus. Et vous êtes donc le bar va être ouvert. N'hésitez pas, donc si vous n'avez pas adhéré à l'association, à adhérer. Voilà, ça vous permet de.
Quelques centimes ou quelques euros.